j'ai pu totalement
t'expliquer. Toi, t'es une de ton matière au cas d'ombrage, en combinant les deux petits de mes précisions, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. 4880 candidats, dont 1020 à Kinshasa, ont passé le concours de recrutement au poste des structures standards de l'administration publique. Le ministre de la fonction publique qui a lancé ce concours, qui s'est déroulé il y a deux semaines, à Kinshasa, affirme que ce concours s'est déroulé sur l'ensemble du pays. Selon lui, ceux des candidats qui seront recrutés constitueront une banque des données d'emploi où seront puisées les demandes des différents services publics selon le besoin. Quel est alors votre avis par rapport à ce concours? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de nous envoyer vos messages sur notre page Facebook. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Eric Sidiakala est à la technique, Pesa Julie Bongonda est au standard et Pierrot et la Magie réalisent cette émission coordonnée présentée par J.R. Mungembo sous la supervision éditoriale de Martin Sebou-Jangwe. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Mungembo.
Pascal Issoumbicho, vous êtes ministre de la fonction publique. Bonjour.
Bonjour, Gilles.
Alors, la réforme de l'administration publique, la réforme amorcée par le gouvernement congolais, c'est pour rendre l'administration publique efficace et concurrente. Est-ce que nous avons besoin d'une telle administration?
Ah ben, ça, c'est une très bonne question. Comme vous le savez, le chef de l'État a décidé de conduire la RDC vers son émergence à l'horizon 2030. Et partant de là, aller vers le développement durable. Ça, c'est la vision du chef de l'État. Mais comment atteindre l'émergence du pays? Il y a plusieurs acteurs, bien sûr, mais on se rend compte qu'il faut une administration qui soit efficace, compétitive et capable d'accompagner cette vision du chef de l'État. Et si on fait l'état de lieu de notre administration aujourd'hui, tout le monde dit que c'est une administration qui n'est plus efficace, qui ne répond plus aux attentes des usagers, et il faut la réformer pour que notre pays devienne émergent à l'horizon 2030, tel que le veut le chef de l'État.
Alors, au regard des réalités socio-économiques, au regard même des contextes politiques, aujourd'hui, est-ce possible d'atteindre cet objectif? Ça passera par quel pilier?
Pourquoi vous pouvez dire que vous pouvez vous demander si c'est possible? De toute façon, nous n'avons pas de choix. Si l'administration publique n'est pas réformée aujourd'hui, ça sera tard demain. Nous en avons parlé lors de la dernière émission. Et il y a trois piliers importants pour moi. En tout cas pour le ministère de la fonction publique, avoir la mission qui nous est assignée par le chef du gouvernement, le premier ministre, pour contribuer à l'atteinte de la vision du chef de l'État, il y a trois piliers importants. Le premier pilier, c'est la maîtrise des effectifs, c'est-à-dire la mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines et de la paie. Finalement, on en parle, ça fait longtemps, on en parle beaucoup, mais on n'y arrive pas encore. Les agents et fonctionnaires de l'État, ils sont combien de chaque catégorie? Connaissant ces données, nous pouvons planifier le reste. On saura combien sont éligibles à la retraite, combien doivent aller à la retraite maintenant, combien iront à la retraite dans 5 ans, dans 10 ans, ce qui peut permettre au gouvernement de faire une planification des mises à la retraite. D'où le deuxième pilier. Pour mettre à la retraite, il faut les moyens. Or, aujourd'hui, l'État n'a pas de moyens pour mettre tous ceux qui sont éligibles à la retraite, pour les mettre à la retraite. Et pourquoi l'État n'a pas de moyens? Parce que d'abord, c'est beaucoup d'argent, mais aussi le système dans lequel nous avons évolué est un système d'octroi. Pas un système contributif, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. Dans d'autres pays, l'agent contribue pendant qu'il est en activité. Et, c'est-à-dire il y a des cotisations qu'il effectue et l'État intervient pour une part. Mais dans notre pays, c'est l'État qui prend en charge tous les frais liés tous les coûts liés à la mise à la retraite. Et nous pensons que ce système ne permettra pas une bonne planification de la mise à la retraite. Voilà pourquoi nous avons proposé que nous passions du système d'octroi au système contributif.
Mais comment contribuer significativement dès lors qu'on a un salaire qui ne répond pas positivement au pouvoir d'achat?
Vous avez raison, vous avez raison. C'est pour cela que dans l'une des priorités du gouvernement, c'est effectivement améliorer les conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État. Mais ça n'aura pas. Améliorer les conditions de qui? Nous ne pouvons pas penser à l'amélioration aujourd'hui sans maîtriser les effectifs, parce qu'on parle encore de beaucoup d'effectifs, on parle encore de beaucoup d'argent qui passe entre les mailles. Si aujourd'hui le gouvernement doit améliorer, ça risque d'être insignifiant si nous ne bouchons pas tous les trous par lesquels l'argent du contribuable passe. Voilà pourquoi j'ai commencé par le premier pilier, qui va nous amener vers le deuxième pilier, et je voudrais ajouter, si vous permettez, lorsque nous aurons mis en place la caisse de retraite, qui permettra de prendre en charge les coûts de la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État qui ont tout donné, qui ont travaillé pour ce pays, qui sont arrivés à un âge où ils ont dépensé toute leur énergie pour la survie de la machine gouvernementale, et bien, lorsqu'ils vont partir à la retraite, ils vont dégager de la place pour les jeunes qui vont être embauchés.
Raison pour laquelle vous avez organisé le concours.
Exactement. Raison pour laquelle nous avons organisé le concours, mais raison pour laquelle je considère comme le troisième pilier de la réforme, c'est le corps national d'administration. Le corps national d'administration que le gouvernement a lancé, que le gouvernement a créé et qui est en train de fonctionner aujourd'hui. C'est-à-dire faire en sorte que les gens soient formés à l'ENA et que ces gens apportent un sang nouveau dans l'administration, combiné à l'expérience de ces aînés qu'ils vont rencontrer dans l'administration, nous sommes sûrs que cela pourra faire en sorte que nous ayons une administration efficace comme nous sommes dans
l'ENA. L'ENA existe, pourquoi organiser encore un concours pour quelle finalité?
Ah oui. Ben, première chose, l'ENA existe et l'ENA n'a formé que 60 finalistes jusqu'à l'année passée. Et cette année, nous avons 100 ENA qui sont en formation. Par rapport aux besoins, ce n'est pas possible. Mais deuxième chose, attention, ceux qui entrent à l'ENA, ils subissent un concours avant d'entrer à l'ENA. C'est pour cela qu'au sortir de l'ENA, ils peuvent entrer directement dans l'administration sans passer à l'autre concours. Parce que les gens risquent de dire, mais pourquoi les ENA, eux, ne vont pas subir un concours avant d'entrer à l'administration? Bon, ils subissent le concours avant d'être recrutés, avant de commencer, de suivre la formation à l'ENA. Mais maintenant, le concours qui a eu lieu il y a 2 semaines, en fait, c'est un concours pour doter de notre administration des structures standards. Les structures à compétences horizontales pour soutenir notre administration dans les différents services, dans les différents ministères. Et parce que c'est des structures nouvellement créées ou nouvellement formulées, parce que y a des aspects qui fonctionnaient déjà, mais il faut un concours pour recruter sur base de la méritocratie. Ce n'est plus question de dire le ministre de la fonction publique va nommer un tel ou tel. Non, non. Les gens ont été soumis au concours et le travail, évidemment, le concours est en train d'être corrigé. Nous aurons les résultats. Après la phase écrite, il y aura même la phase orale et nous pensons que de cette façon-là, nous aurons recruté comme le prévoit la loi, parce que la loi.
Et quel est le critère qui a habilité pour la sélection de correcteurs, ceux-là qui sont commis à la correction de ces concours?
Nous avons choisi des personnes les plus objectives possibles en cette matière, c'est-à-dire les professeurs d'université. Nous nous sommes dit, voilà, c'est des gens qui sont habitués à la correction. C'est des gens qui savent toute la docimologie et c'est des gens qui doivent corriger. Nous considérons qu'un professeur d'université est incorruptible. et nous avons choisi pas n'importe quel professeur.
C'est les présomptions.
Oui, c'est vrai. On dit qu'il y en a qui sont corrigés. Moi-même, je suis professeur d'université, je sais tout ce qu'on raconte. Mais je dois vous rassurer que nous avons choisi ce que nous connaissons, compte tenu de leur moralité.
Voilà, avant de passer de l'autre côté des standards, pour permettre aux auditeurs de ne pas revenir sur des questions, quelle sera l'étape suivante? Ceux qui vont réussir, ils vont directement entrer et ce concours sera régulier?
Première chose, ceux qui vont réussir au test écrit, ils vont subir le test oral. Quand ils auront réussi, évidemment, nous allons les placer dans les directions. Mais je dois vous rassurer que...
Ils auront un numéro mathématique,
bien
ils seront des fonctionnaires, avec un salaire un peu...
S'il vous plaît, déjà, pour la plupart, si pas tous, sont déjà fonctionnaires. Ils sont déjà dans la fonction publique et ils ont...
Ça sera une promotion.
Bien sûr.
Ça sera automatique.
Exact, et ça sera automatique. Alors, l'étape à suivre, bien sûr, déjà au mois de janvier, il y aura un autre concours. Parce que le concours devient désormais le mode de recrutement. Parce que pendant des années, le recrutement se faisait tel qu'on connaît. C'est-à-dire, le ministre que je suis pouvait...
N'importe quel ministre de l'administration, c'est-à-dire l'environnement, à son arrivée,
ça amenait... Ce n'est pas ça. Même s'il faut recruter dans un autre ministère, prenons le ministère de la Santé publique, eh bien, si le besoin se fait sentir, le ministre de la Santé publique va s'adresser au ministre de la Fonction publique pour organiser le concours des réfugiés.
081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous vous accueillons, maître Adrien, vous êtes à Kananga, bonjour.
Pierre Longembo, bonjour à son excellence, monsieur le ministre.
Bonjour.
Vous avez la parole, quel est votre avis par rapport à ce concours qui a été organisé et aussi votre commentaire par rapport à la poursuite de cette réforme de l'administration publique?
Oui, merci, JR, de la parole que vous m'accordez. D'entrée de jeu, je m'en vais féliciter humblement le gouvernement congolais par le biais du ministre de la fonction publique, parce que le gouvernement a compris notre credo de tous les jours. Il faille vraiment revoir la fonction publique. Et c'est vrai que nous saluons aussi la manière qui accompagne cette façon-là de faire de notre administration publique, parce qu'on cessait de dire, si nous voulons avoir une fonction publique crédible, efficace, il faut revoir donc ces anciens systèmes qui étaient devenus un peu archaïques.
Maître Adrien, il faut aller droit au but. Le ministre a parlé de trois piliers, notamment le système intégré des ressources humaines pour la paye. Également, le deuxième pilier relatif à la caisse de retraite, où nous devons passer à un système octroyé, à un système contributif, c'est-à-dire tout le monde va contribuer pour permettre à ceux qui vont sortir de la retraite puissent avoir, sortir honnêtement. Et puis, troisième pilier, c'est un rapport avec l'ENA, les énarques qui ont accès à l'administration sans problème. Mais aux côtés de l'ENA, il y a ce qu'on organisera désormais de manière régulière, le concours qui venait de se passer. Et quel est le commentaire par rapport à ces piliers?
Exactement, JR, merci beaucoup pour m'avoir relancé. Je pense que, je me dis, le gouvernement congolais sera buté à une difficulté selon laquelle, parce que nous avions suivi son excellence, monsieur le ministre, qui venait de déclarer avec une étonnante déclaration, il dit que jusque-là, le gouvernement n'a pas encore maîtrisé l'effectif donc de l'administration publique. C'est là que je me demande, est-ce qu'on n'a pas mis là la charrie devant le bœuf? Il n'était-il pas possible de commencer d'abord par maîtriser l'effectif? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la question que tout le monde se pose est celle de savoir, après le concours organisé, on pourra retenir combien de candidats et ça sera sur quelle base ce nombre-là donc sera retenu, parce que jusque-là, on ne connaît pas l'effectif. Deuxièmement, et puis les candidats à la retraite, est-ce que le gouvernement devrait commencer, à mon humble avis, par laisser partir ces gens-là pour se rendre compte du besoin qui devrait être, donc qui devrait se poser dans chaque fonction, dans chaque division, et en ce moment-là, on pouvait maintenant recruter en connaissance des choses. C'est là que moi je me dis hier que parce que le gouvernement a commencé par recruter sans maîtriser d'abord l'effectif et aussi sans avoir connaître d'abord le nombre des agents, de candidats qui iront à la retraite, je crains que le gouvernement soit habité à cette difficulté-là et ceux-là qui seront recrutés ne puissent pas être donc une simple formalité. Et puis pour finir, je me dis, j'ai aimé et puis son Excellence parce qu'il a apaisé quand même mon inquiétude. Je me disais, est-ce qu'il y aura vraiment de l'objectivité en ce qui concerne la corruption? Parce qu'on est quand même habitué hein, dans ce pays, les concours. Ce n'est qu'une formalité sur papier. Il y a déjà des gens bien préparés pour aveugler les autres. Mais comme Son Excellence a apaisé que ce sont les professeurs et avec un critère bien objectif qu'on a sélectionné, donc je suis apaisé et je souhaite à Son Excellence, Monsieur le ministre de la fonction publique, toutes les bonnes choses.
Merci beaucoup, Maître Adrien. Pour vous, le gouvernement a mis la charrie devant le bleu en organisant ces concours. Dès lors qu'il n'a pas encore maîtrisé l'effectif au niveau de la fonction publique. Omar, vous êtes à Kinshasa, bonjour Omar.
Bonjour, bonjour à Son Excellence, Monsieur le ministre.
Est-ce que vous partagez le même avis que Maître Adrien, que le gouvernement n'ayant pas maîtrisé l'effectif, les concours, c'est pratiquement d'une manière anticipée?
Oui, je partage totalement l'avis de mon estimé honoré conseiller Adrien. Je voudrais nuancer en cette carte. Et je voudrais en plus aujourd'hui axer mon intervention par rapport au choix privé de la réforme. Premièrement, par la discussion intégrée, je tiens quand même, au nom de nos intérêts intellectuels, de spécifier le gouvernement qui, sans faire ses a quand même initié beaucoup de réformes. Aujourd'hui, on parle de l'élan, on parle du concours, il faut quand même spécifier les bonnes choses. Mais par là, du deuxième pays, c'est l'extrême constitutif. Et là, ce que j'ai dit, c'est de remettre à bien pour dire que ça, en tout cas, à ce niveau, rien n'est fait. Comment demandez-vous à des personnes de contribuer si au préalable on ne garantit pas leur enveloppe salariale? Et nous aujourd'hui, c'est vrai, la réforme passe aussi par ce qu'ils font, mais la vraie réforme passe par des problèmes de fonds. En toujours, les fonctionnaires de l'État sont des misérables, ils sont mal payés. Comment voulez-vous qu'ils arrivent à contribuer si au préalable on n'améliore pas leur salaire et prime? Et le salaire au Congo n'est pas le changement de la rémunération. On a comme l'impression qu'on donne que le salaire, les soins médicaux, la cotisation sociale, les frais de transport ne sont pas considérés. La réforme, c'est aussi celle-là. Prenez encore un autre problème. Il y a des gens qui ont été nommés depuis 2009, d'autres depuis 2008. Juste parce qu'ils n'ont jamais été mécanisés. La réforme passe aussi par là. Les gens, ils finiront par être retraités. Ils vont contribuer avec quoi? Et quel sera leur sort? La réforme passe aussi par là. Alors, parlant de l'ENA, là, j'essaie vraiment à féliciter. Nous avons tous déploré dans ce pays le recrutement complaisant des agents de l'État. En ces jours, on remarque, et moi j'ai des témoignages, il y a des gens qui ont été recrutés à l'ENA, et si vous les interrogez, ça va être à l'enjeu, c'est tout à féliciter. Mais j'ai conclu à l'ISANJR. La réforme de cette administration était le mixte au simple recrutement, au simple contrôle et l'effectif du personnel. L'administration, comme noyau d'un pays, exige des moyens pour sa réforme et son efficacité. Un, des moyens humains. Ça nous félicitons, il y a des efforts qui sont faits pour
accueillir. Oui, Omar, pour vous relancer, il y a quelques auditeurs qui nous ont écrit, qui ont dit ceci. C'est vrai que le gouvernement pourra avoir des difficultés, surtout au niveau du ministère de la fonction publique, dès lors que l'ordonnancement est assuré toujours par les ministères du budget. Il faudrait que ces systèmes d'ordonnancement reviennent, en tout cas comme prérogative du ministère de la fonction publique. Est-ce que vous partagez cet avis? Aussi longtemps que cette question transversale ne sera pas résolue, et ce sera toujours difficile de pouvoir réussir avec ces concours, même si on a le nouveau cadre, mais le fait que l'ordonnancement partira toujours du budget, il y aura toujours d'effectifs.
Merci, Gilles. Je voulais en venir, heureusement, l'esprit prophétique que vous avez m'a précédé. Je disais, Gilles, et j'en reviens à votre question, l'administration, pour être efficace, exige beaucoup de moyens, des moyens humains. Là, nous félicitons les gouvernements qui recrutent, qui appellent les noms pour recruter un bon personnel. Nous avons les moyens aussi juridiques. Nous avons vu des textes qui sont émis au Parlement. Mais le plus de plus, le grand problème, c'est les moyens financiers et matériels. Alors, on a comme l'expression dans ce pays que le ministère du budget et des finances bloque tout. Nous avons toujours interrogé les ministères de l'Intérieur au nom de la société civile. Ils disent que nous, on a déjà décaissé, on a fixé des salaires, le ministre du budget ne fait rien. Alors, on se pose une seule question hier.
Si ce qui fait que les gens qui ont été nommés depuis 2009, les gens qui doivent être promus, qui doivent avoir des salaires promus, n'arrivent pas à le faire. Il faut là, et j'ai conclu par là, un minimum de volonté politique. Le recrutement est fait. Les agents sont payés. Et dès qu'ils manquent, ils sont plus bien leur payer. Nous implorons là, nous interpellons les ministères du budget, qui doivent travailler des concerts avec les ministères de la fonction publique et avoir un minimum de bonne volonté. Et moi, je pense en fait ça, que les présidents et les premiers ministres doivent vraiment agir à tant que des autorités et hiérarchies. Dire au ministère du budget, lorsqu'il nous dit de le faire avec célérité. Le ministère de la fonction publique a fait son travail, il a une des réformes, il a élevé des salaires, mais c'est au niveau du ministère du budget et des finances, et la bonne volonté doit agir par la limitation de ses limites, soit du point de vue des textes, du personnel, mais aussi au moyen qu'on lui accorde pour bien faire son travail.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Omar. C'est vrai, pour vous, le système contributif devrait être donc appel à l'amélioration des salaires pour arriver finalement à atteindre quand même l'objectif. Girex, vous êtes à Bandounouville. Bonjour, Girex.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Girex.
Oui, dans tous les jours, je commencerai par féliciter le ministre ainsi que tout le gouvernement pour les efforts consentis en fait de donner de l'emploi aux jeunes. Ça, c'est bien. Mais personne d'entre nous ignore que lorsqu'il y a une offre d'emploi dans ce pays, et que ce sont des colorations politiques, ici pas le tribalisme, qui dicte le choix. Alors, dans le cas d'espèce, je voulais demander au ministre, quelle garantie le ministre peut-il nous donner pour que nous puissions avoir toutes les assurances que la coloration politique ainsi que le tribalisme n'influenceront pas le choix des candidats. Alors, parce que le ministre a aussi parlé du choix des correcteurs en la personne des corsaires. Oui, c'est bien le corsaire. Mais nous savons que s'il faut interroger les étudiants vous diront que ce sont les mêmes corsaires, si pas très corsaires, mais ce sont les corsaires qui aujourd'hui monnaient le résultat de le passage des classes. En dehors de cela, nous savons que le point de passage des classes sont donnés en échange de sexe pour les filles. Parce que n'est-ce pas là des éléments qui puissent vraiment diminuer de crédibilité au prétorium qu'a pu étaler M. le ministre?
Voilà, Girès, on va vous relancer un peu. Vous êtes encore en ligne, Girès?
Oui, monsieur.
Alors, il y a certains auditeurs qui nous ont écrit. On souhaitait que, au fait, le ministère de la fonction publique puisse travailler en collaboration, parce que là, même le rendre efficace l'administration publique passe par la collaboration pour résoudre les questions transversales. Parce que la question de l'emploi, c'est une question transversale. Les ministères de la fonction publique, les ministères du travail et prévention sociale, alors pourquoi ne pas utiliser les services techniques de l'État qui existent, l'ONEM, qui sera comme une courroie ou encore une interface pour aider également au choix de candidats qui vont passer le concours, parce qu'il y a parmi ceux qui sollicitent le travail au niveau de l'ONEM, il y a aussi des chômeurs. Question de pouvoir réduire les taux de chômage. Est-ce que vous partagez cet avis, Gérès? Voilà, on a plus avec la ligne de Gérès. On va prendre Jacques de Congolo. Jacques, vous êtes à Congolo. Bonjour, Jacques.
Bonjour.
Vous avez la parole, Jacques.
Ah, mon problème, je voulais demander, le remercier d'abord pour nous avoir éclairé. Ma première question, c'est de savoir quels sont les critères de sélection pour être éligible à ce concours. Et deuxièmement, est-ce que ce concours va se limiter seulement à Kinshasa ou bien ça va s'étendre partout dans toutes les provinces? Merci beaucoup.
Merci. Alors nous revenons à vous, parce que là il s'agit des questions directes, monsieur le ministre. Vous êtes avec nous. Que répondez-vous à Jacques, monsieur le ministre?
Merci beaucoup. Je vais commencer par Jacques. Évidemment, les critères sont bien connus. Je ne peux pas les détailler ici. Mais la question la plus importante, c'est est-ce que ça va s'étaler sur toutes les avenues de la République? Mais ça a été le cas. Et donc, il y a eu le concours même dans toutes les provinces pratiquement, comme nous l'avons prévu. Et donc, il doit se tranquilliser. Il y a pas de problème.
Ça veut dire qu'il y avait des petits problèmes, des petits soucis au niveau du maniement?
Non, c'est pas au niveau de maniement, c'était un problème logistique, c'est-à-dire que le concours n'a pas eu lieu au maniement le même jour que dans les autres provinces. parce que, comme vous le savez, le programme des avions, mais le concours a fini par avoir lieu et tout s'est tout très bien passé. Vous, vous permettez que je réagisse avec les autres auditeurs. D'abord, je voudrais en tout cas les remercier et les féliciter, hein, parce que leurs interventions sont très très pertinentes et on sent bien le souhait de voir notre administration aller de l'avant. Ils ont même félicité le gouvernement, ça c'est une bonne chose. Alors, il y a une grande préoccupation concernant l'objectivité dans la correction et dans le compte-rendu des résultats du concours. C'est vrai, nous venons d'un système où c'est difficile de faire confiance aux gens. On parle même de problèmes dans notre université. Mais tout ce que je peux dire, c'est que nous avons mis en place un mécanisme pour tout contrôler. D'abord, hein, les correcteurs, ils sont en train de corriger des copies sans nom. C'est-à-dire, nous avons appliqué le système d'anonymat. Il n'y a aucun correcteur qui sait il corrige la copie de qui. Ça, c'est la première chose. Et tout a été codé. Et c'est moi, le ministre, qui garde, en tout cas, le code, si vous voulez bien les entêter. Deuxième chose, le concours est corrigé par binôme. C'est-à-dire, deux correcteurs pour corriger une même copie. Et à la fin, c'est une moyenne, c'est une discussion entre les deux correcteurs. Et à la fin, nous finissons par dire, voilà, nous pensons que ce qui est objectif, c'est ceci. Tout cela, c'est pour garantir l'objectivité. Troisième chose, c'est que nous sommes assistés, il y a les correcteurs, mais il y a d'autres personnes, et je ne veux pas ici donner les détails, qui suivent le travail. Les professeurs qui sont en train de corriger, ils sont contrôlés, sans qu'ils sachent qu'ils le sont. Ils sont suivis sans qu'ils le sachent. Bon, maintenant que je viens de le dire, ceux qui vont le savoir, mais il ne reste qu'un ou deux jours de correction. Donc, mais ils ne sauront pas, effectivement. Ils sont suivis dans tout ce qui s'est fait. Donc, ils peuvent nous faire confiance. Nous comprenons bien leurs doutes, mais ça ira. Alors, il y avait une préoccupation concernant l'ordonnancement. Ça, c'est une question pertinente. Mais si vous permettez, je vais caricaturer un peu, hein, comme si j'ai donné cours dans un auditoire. Alors, comment le gouvernement fonctionne? Le gouvernement, c'est une équipe. Et je considère le président de la République comme l'entraîneur, le premier ministre comme le capitaine. Et chaque ministre, il a un poste. Je ne sais pas si moi je suis à la défense ou à la garde,
voilà les attaquants.
Donc nous travaillons pour le même but, celui de gagner la coupe, celui de marquer le but. Et donc nous travaillons en harmonie avec le ministère du budget, avec le ministère des finances, pour atteindre les mêmes objectifs. Les réformes qui se font, c'est parce que le budget donne le moyen. C'est vrai qu'au niveau de l'ordonnancement, le système intégré de gestion des ressources humaines de la paie fera en sorte que l'ordonnancement de la paie partira du ministère de la fonction publique. C'est pour cela, évidemment, que tout le gouvernement se bat pour que ce système soit fonctionnel. Nous nous retrouvons devant des auditeurs qui ont raison parce que ça a traîné. Mais je ne suis pas d'accord lorsqu'ils disent nous avons mis la série devant le B. D'ailleurs, c'est vous qui avez utilisé ce terme. Non, pas du tout. Si nous disons attendons jusqu'à ce que nous aurons maîtrisé tous les effectifs, mais nous risquons de le maîtriser et pendant ce temps, l'administration se sera écroulée. Lorsque nous avons la possibilité de recruter parce qu'il y a moyen de le faire, nous recrutons. Et pendant ce temps, nous améliorons les effectifs. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez un malade et qui a plusieurs maladies, et vous vous dites, bon, je vais d'abord soigner une maladie jusqu'à ce que le malade soit guéri de cette maladie pour commencer une autre. Non, non, à l'hôpital, on vous dira non, non. Il faut lui donner de la quinine parce qu'il a la malaria, il faut lui donner des antibiotiques parce qu'il a d'autres infections. C'est ce que nous essayons de faire et nous pensons que nous arriverons au résultat escompté quand il faut. C'est vrai, la population attend beaucoup et c'est tout à fait normal. Et le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre Matata, fournit beaucoup, beaucoup d'efforts sous l'impulsion du chef de l'État et tous nous sommes mobilisés en tout cas pour atteindre l'émergence de notre pays à l'horizon 2030. Et nous avons besoin d'être soutenus par toute la population. Parlant du système contributif, oui, c'est vrai. On ne peut pas contribuer lorsque le salaire lui-même il est déjà C'est pour cela que j'ai dit que le gouvernement est en train de se battre pour que les conditions salariales soient améliorées. C'est un des objectifs du gouvernement. Mais évidemment, il y a des préalables. Il faut mobiliser les moyens, bien sûr, mais en même temps, il ne faut pas qu'on améliore les conditions pour les fictifs. Vous voyez pourquoi nous y allons en parallèle. Voilà.
Donc, vous dites que ceux qui seront recrutés, ils auront un statut particulier.
Ceux qui vont être
recrutés.
Mais toute l'administration aura un statut particulier. C'est ça le but de la réforme. C'est ça le but de la réforme. Et lorsque vous parlez du statut particulier, je vois que vous faites allusion, par exemple, à ceux qui sortent de l'ENA. Oui, ceux qui sortent de l'ENA, et ils en sortent comme faisant partie du corps des administrateurs civils. Ça fait un statut particulier. Mais ce n'est pas que cela se fait en oubliant les autres. Non, pas du tout. Les conditions salariales de tous les agents et fonctionnaires de l'État doivent être améliorées. Et tout ce que le gouvernement essaie de faire, c'est dans ce sens-là. Les difficultés sont énormes, bien sûr. L'administration n'est pas encore efficace. Vous savez que notre budget annuel, le budget du gouvernement, déjà, il n'est pas suffisant. Mais vous savez aussi que dans sa réalisation, nous n'arrivons pas à mobiliser tout ce que nous prévoyons. Mais pourquoi ? Pour un pays qui a un potentiel fiscal énorme, mais nous n'arrivons pas à mobiliser les recettes.
À cause de l'administration.
Encore une fois, ça revient à moi. Vous voyez que finalement, sur l'administration.
Voilà, on va repasser de l'autre côté du standard avec Félicien qui est à Kinshasa. Félix est à Mahagi et puis Raphaël à Guémena. Félicien, vous êtes avec nous. Bonjour Félicien.
Bonjour à votre invité, son Excellence le ministre de la Fonction publique.
Bonjour.
Bonjour aussi à tous les auditeurs.
Vous avez la parole, Félicien. Quel est votre avis?
Oui, moi je voudrais savoir si on a trouvé 4180 candidats, mais combien d'emplois vacants ont été inventoriés au niveau de la fonction publique pour avoir autant de candidats? Et puis, je voudrais aussi savoir s'il y a-t-il vraiment une politique au niveau du gouvernement pour résorber le chômage dans ce pays. Le taux de chômage en République démocratique du Congo augmente-t-il au jour le jour ou bien régresse-t-il? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui doivent nous montrer qu'on est en train de faire un effort pour réduire un peu le chômage? Parce que nous trouvons même des chômeurs, des enfants qui ont terminé 5 ans, 10 ans.
Félicien, je crois que nous devons faire la part des choses par rapport à cette thématique. Nous parlons de concours de recrutement au niveau de l'administration. L'objectif pour le gouvernement, c'est rendre efficace et compétitive notre administration. Et nous avons dit l'administration était inexistante. Cela a des implications, même sur ce que nous... sur la vie économique, la vie politique. Donc, il y a un impact à tous les niveaux. Alors, aujourd'hui, pour rendre cette administration efficace, il faut passer par les concours et ces concours qui ont été organisés. Mais quand nous parlons du chômage, c'est vrai, c'est une question qui concerne l'emploi, le travail et le plan social. Donc, je crois qu'à ce niveau, il y a un débat qui pouvait être fait aussi avec l'ONEM qui gère le taux du chômage en tant que service de l'État. Mais à ce jour, que faut-il faire pour que, finalement, les concours, comme l'a annoncé le ministre, qui sera régulier désormais, pour que ça constituera un mode de recrutement dans l'administration, est-ce pour vous, il y a des avantages ou il y a encore des inconvénients?
Oui, mais justement, je voulais savoir, il y a d'abord la fonction publique à un nombre limité et les agents qui y travaillent. Pour qu'on puisse engager d'autres, il faut qu'il y ait de ceux qui sortent pour la retraite. Et combien on a déjà inventorié des postes vacants de ceux qui vont aller à la retraite pour qu'on puisse avoir 4880 candidats qui seront là. Parce qu'on ne peut pas faire le concours aux gens qui vont attendre 5 ans pour qu'on les appelle pour venir occuper des fonctions. Et puis la caisse de retraite des fonctionnaires dont on parle. Et ça passera toujours par l'INSS avec ce système de payer des milliers aux gens, ou bien on a amélioré, on a trouvé une autre formule pour ceux qui vont aller à la retraite, pour qu'ils aient une retraite vraiment méritée. Les conditions de travail de ceux qui vont venir sont déjà améliorées, ou bien ils vont travailler dans les mêmes conditions que ceux qui étaient là-bas pour que cette réforme puisse donner vraiment des résultats.
Merci beaucoup Félicien. Félix, vous êtes à Mahagi. Bonjour Félix.
Bonjour Radio Capi, bonjour à son excellence, monsieur le ministre de la fonction publique et à tous les auditeurs de la Radio Capi, surtout ceux qui sont dans la province de l'Ituri.
Quel est votre avis?
Oui, mon avis est que je voudrais savoir si la fonction publique, qu'est-ce qu'elle est en train de penser à rapport avec les agents qui sont déjà en fonction depuis longtemps. Est-ce qu'on va organiser des recyclages pour remettre à niveau ces gens-là, ou bien on va balayer tout le monde qui était là à la fonction publique pour mettre les gens qui viennent dans l'école de la fonction publique, donc l'ENA. Deuxième préoccupation, lors des recrutements, j'ai vu sur Internet, on a retenu seulement les gens qui sont au niveau des provinces, juste en rapport avec l'ancienne configuration. Pendant que maintenant nous avons 26 nouvelles provinces, est-ce qu'on va tenir compte de ces 26 nouvelles provinces pour organiser les recrutements au chef-lieu de chaque nouvelle province? Ça, c'est la deuxième préoccupation. Troisième, que l'autre intervenant avait déjà touché, est-ce que la condition de ces gens-là, est-ce que ça sera amélioré ou comment est-ce qu'on va procéder? Puisque dans l'administration, il y a des gens qui ont fait déjà 20 ans, mais ils n'ont pas de numéro matricule, et il y a des gens qui ont des numéros, mais ils sont NP. Alors cette situation-là, est-ce que ça va s'améliorer? Donc c'est ça un peu mon inquiétude.
Merci beaucoup Félix d'avoir appelé de Maragui à l'Ituri. Raphaël, vous êtes à Guémena, à l'Équateur, bonjour.
Bonjour Monsieur J.L. Je voulais un peu intervenir sur la situation de recrutement des fonctions publiques. Ici à Guémena, on n'a jamais connu ces concours de la fonction publique. Alors nous sommes inquiétés d'attendre la question de 1. De 2, il y a des gens qui ont travaillé plus de 30 ans, 40 ans, ils sont vieillis, ils sont là, et ils n'ont jamais été recrutés. Alors nous sommes, on est en train de se préparer à cause de recrutement. Où est-ce qu'on va mettre à cause des gens qui sont là, là où ils vieillis, moi aussi dans la fonction publique? Et 3. Jusqu'à présent, il y a des gens qui travaillent à la fonction publique, mais par le nom. On n'a jamais dit les agents en fait de travail, mais il y a des agents qui sont là, ils travaillent, ils décident les salaires. La famille, ils prennent les salaires, mais les agents présents qui continuent à travailler actifs, ils travaillent là, ils n'ont jamais reçu les salaires. Ils n'ont même pas immatriculé, il a travaillé plus de 40 ans, 30 ans. Et qu'est-ce que la fonction publique organise ou voit pour maîtriser, voir vraiment sa bonne fonctionnalité? Voyez les cas de secours. Nous demandons chaque fois sinon, au bout de mêler ou prendre l'initiative de secours qui continue à maîtriser le statut de l'usage. Si on faisait à la fois, on ne peut pas vraiment avoir de problèmes. Parce que nous, à la fois, on paye l'enseignant et on paye les postes. Si l'enseignant est parti, mais les postes restent, on prend dans les RI. À la fonction publique, c'est pas le cas. À la fonction publique, on peut rester pendant 10 ans, 20 ans, et la personne où l'autorité pour continuer à prendre les chalets, il bouffe avec sa famille, mais il y a encore des gens qui continuent à travailler comme là, comme un but, alors que non, on en sortait à son mari.
Voilà, Raphaël, je ne parle pas de la place du ministre. Tout à l'heure, il a expliqué le système intégré, la gestion des ressources humaines et de la paye, pour dire que ça sera tellement automatique que ça sera un mécanisme qui pourrait, en fait, constituer une alerte quand il s'agit, par exemple, d'un cas de décès ou encore de quelqu'un qui est allé en retraite. Ça pourrait aider tant soit peu les ministères de la fonction publique dans ce sous-forme d'un tableau des bords. À la minute, on sait qui est parti, qui est resté, les postes qui est resté. Donc, je crois que c'est à ce niveau-là.
Mais c'est une promesse parmi les promesses de la RDC. Mais on a organisé des concours partout comme les.
Mais on n'a pas organisé à Guémena. Donc, je crois que le ministre va répondre
par rapport à l'avenir où on a eu des prépa pour l'organisation.
Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir appelé les Guémena. Albert, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Albert.
Bonjour, Pierrot. Bonjour, tous les auditeurs de Radio Capi. Bonjour à son excellence Pascal Ichimbicho, ministre de la fonction publique.
Bonjour.
Ok, à l'entrée de matière, d'abord, je devrais commencer à louer et à saluer les efforts que le gouvernement est en train de fournir à travers le ministère de la fonction publique. Mais je me retrouve avec trois petites préoccupations auxquelles je voudrais appeler que votre invité nous éclaircisse en tant que citoyen de ce pays. La première, je voudrais un peu savoir. Lui a parlé toujours du concours comme serait comme un modus operandi pour l'accession à la qualité ou pour avoir la qualité d'un fonctionnaire ou pour travailler pour la fonction publique. Je veux un peu savoir. Nous, de notre constat, nous constatons que la fonction publique est rongée par plusieurs mots, parmi lesquels nous avons d'abord le trafic d'influence. C'est-à-dire, une fois, même si on passait, on avait la chance de pouvoir passer son concours, mais il y a toujours des recommandations, vous trouverez la petite ou les chanteurs de ceux qui ont été recrutés. Qui paraissaient apparemment réussir à ce concours-là, mais seront que les enfants des ministres, les cousins, les petits frères, les petits-fils, les ceux qui sont déjà dans les institutions. Donc on remarque quand le concours passe au niveau ici, au niveau des provinces, parfois certaines personnes ne vont pas réussir. On peut faire un concours dans l'état, par exemple, licencié, gradué, justement, avec n'importe quel titre académique. Mais comment est-ce que tous ces gens-là qui échouent, est-ce qu'ils ne sont pas vraiment à même de pouvoir un peu
réussir
à ce concours pour qu'ils soient traités avec équité par rapport à tous les autres? Dans ce domaine de l'idée, je voudrais un peu savoir, parce que d'ici peu de temps, j'ai appris qu'au niveau de l'Itourie, il y a eu des tournements des salaires de l'agent de la fonction publique. Maintenant, je voudrais savoir, je crois, il y a une année que le Premier ministre avait lancé le projet de la banque de la fonction publique. Est-ce que le ministre de la fonction publique étant le répondant numéro un de l'agent public, quelles sont les stratégies qu'il a développé? Parce que c'était deux cas déjà. Dès qu'il y a déjà des braquages qui sont connus, les agents de la fonction publique, quelles sont les stratégies par rapport à la politique de la bancarisation pour le Premier ministre afin de lancer que nous avions salué tous avec enthousiasme pour que cela ne soit plus? Parce que quand on aura toujours l'habitude de retourner à la case de départ, je crois très bien que les sommes dont on a sur les palais
Merci beaucoup. Oui, on a compris, Albert, toutes vos préoccupations. Les gens délivrent quelques messages. Il y a Grace Mouyaya qui dit, pour ce qui me concerne, je salue cette initiative du ministre de la fonction publique, mais j'ai décrit la proportion allouée à la ville-province de Kinshasa, et j'ai bien aussi demandé au ministre de veiller sur le fanatisme et les clientélismes qui règnent dans les chefs de nos dirigeants congolais pour avoir les fonctionnaires dignes de ce nom. J'ignore Yala. Dire que le concours a été organisé dans l'ensemble du territoire national, c'est superflu et à la fois une omission grave de certaines provinces, mouvements nouvellement démembrés, car ici à l'Équateur, en Bandaka, et nous avons suivi un autre qui a parlé à Guémena, c'est un silence absolu, à moins que je me trompe, mais je suis sûr et certain que je n'ai rien entendu de ce sens, qui nous dit simplement que ces concours étaient une façon trompe-l'œil pour avantager leurs proches. Voilà, monsieur le ministre, on va revenir à vous, le temps de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également composer les 081-890-6315 pour les interventions en direct.
Votre connexion internet est trop lente? RadioOkapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir des infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. RadioOkapi.net à votre service.
Voilà, nous revenons à vous, messieurs, le ministre Pascal Issoumichou, ministre de l'administration publique, donc de la fonction publique, et vous avez suivi tour à tour Félicien, Félix et puis Albert. En fait, les préoccupations, mais ces préoccupations, se dégagent, en fait, cette inquiétude par rapport à l'impartialité, d'abord, au niveau de la correction. Est-ce qu'il n'y aura pas du clientélisme, il n'y aura pas du tribalisme, il n'y aura pas ce qu'il a appelé les trafics d'influence, ce qu'Albert a appelé les trafics d'influence. Il y a d'autres qui ont donné même le modèle aujourd'hui. Pourquoi ne pas copier les modèles de ce que c'est copé? Ça pourrait être plus efficace et plus correct. Et le 4800 candidat, l'INSS, est-ce qu'on pourrait la caisse de retraite disons, travailler toujours avec ce système des bénéfices, avec les modiques sommes qu'on paye à tout moment. Voilà un peu quelques préoccupations.
Merci beaucoup, J. Encore une fois, je commence par féliciter les auditeurs. Et on voit bien le niveau de réflexion des citoyens congolais qui veulent voir leur pays aller de l'avant. Et ça m'encourage personnellement et je suis sûr que ça encourage tout le gouvernement. Je voudrais commencer par la préoccupation d'Albert qui a parlé en dernier lieu. Et en parlant, par exemple, de la proportion allouée à la ville province de Kinshasa. Ça me permet de dire en quelques mots comment ça se passe. Il n'y a pas une proportion allouée à la ville province de Kinshasa. L'appel a été lancé pour tout le pays, sur toute l'étendue du pays. Et le constat est que c'est dans la ville de Kinshasa qu'il y a eu beaucoup de candidats qui ont répondu. Donc, il ne faut pas dire que c'est une proportion qui a été définie par le ministère de la fonction publique. Non. Et c'est ça, je profite de cette occasion pour lancer l'appel à toutes les provinces de pouvoir concourir quand il le faut.
Parce qu'au mois de janvier, il y aura encore
Un autre concours. Donc, il faut pas laisser à la ville de Kinshasa de se taper la part des lions, s'il vous plaît.
Peut-être qu'il n'y a pas une vulgarisation de lieu de dépôt des candidatures et là où le concours
devait être. C'est possible, JR. Et je dois reconnaître qu'il y a de failles jusque-là dans la réforme que nous pilotons. C'est un déficit communicationnel. En tout cas, nous allons améliorer pour que les gens soient informés davantage. Alors, lorsque quelqu'un se retrouve aujourd'hui à Guémena, parce que les provinces ont été démembrées, et il s'est dit qu'il n'y a pas eu de concours ici, non. Il ne faut pas perdre de vue que lorsque le concours a été organisé, c'était dans l'optique
de 11 provinces.
Et donc, quelqu'un de Guémena, il pouvait bien concourir. Donc, nous n'avons exclu aucune province. Maintenant que nous en avons 26, et pour le prochain concours, nous en tiendrons compte. Et encore faut-il que les gens puissent vraiment concourir, parce que il y a des gens qui n'ont pas voulu concourir, croyant que ça ne va pas avoir lieu, parce qu'il y a des gens qui étaient réservés. Alors, concernant le trafic d'influence, encore une fois, je ne sais pas comment il faut le dire. Nous sommes déterminés à lutter contre toutes ces antivaleurs-là. Le chef de l'État, il fait de ça son cheval de bataille, le premier ministre et tout le gouvernement, et moi-même au niveau de la fonction publique. Prenons l'exemple de l'ENA. Parce que notre ami Albert qui a même dit ce sont les enfants de ministre qu'on va. Non, vous prenez les 60 ENA, que je ne sais pas s'il y a un seul enfant de ministre.
Qui s'appelle les solutions.
Non, il n'y en a pas du tout. Ou même qui s'appelle d'autres ministres. Vous prenez les 100 qui sont aujourd'hui en formation à l'ENA. Mais pour la plupart, c'est des gens qui sont venus de l'intérieur. De l'intérieur. J'ai même vu des gens qui disaient « Ah ben, on a favorisé les gens du Sud Kivu, on a favorisé les gens du Nord Kivu. » Mais c'est pas un concours. Vous voyez, c'est ça l'avantage du concours. Nous battons, nous ferons tout pour que effectivement ça soit objectif. Ils ont raison. Il y a toujours eu le trafic d'influence dans notre pays, mais nous sommes déterminés.
Il n'est pas interdit à un enfant d'un ministre de concourir, parce que s'il répond aux critères,
de concourir et de réussir efficacement. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question. Je pense que là nous sommes en mal. Il y avait Félix. Il a présenté une inquiétude très très considérable, qui est aussi le résultat d'un déficit communicationnel. Est-ce qu'il y aura recyclage ou on va balayer tout simplement ce qui sont déjà là? C'est grave. Et déjà, je l'avais dit la fois passée, même si le gouvernement avait le moyen de mettre tous ceux qui sont éligibles à la retraite, les mettre à la retraite maintenant, il ne le ferait pas. Pourquoi? Parce que ça viderait notre administration des compétences dont l'administration a besoin maintenant. Donc, il faudrait y aller progressivement. Je le souligne. Si nous prenons l'exemple, parce qu'on a demandé combien d'éligibles à la retraite, nous sommes en train d'y travailler, mais nous avons déjà des indications. Vous prenez les hauts commandements de notre administration, c'est-à-dire les secrétaires généraux et les directeurs, par exemple. De plus de 80% sont éligibles à la retraite. Si nous prenons les secrétaires généraux, sur 54, 53 sont éligibles à la retraite. Vous voyez, si nous disons tous ces commandants de notre administration, nous les mettons tous à la retraite, eh bien l'administration ne va pas fonctionner. Ça, il faut le savoir. qu'est-ce que nous allons faire? Nous mettons à la retraite ceux qui peuvent y aller progressivement et ils seront remplacés par d'autres. Le recrutement ne se fera pas pour venir chasser les gens, non. Le recrutement se fera pour venir combler le vide. Une fois mis à la retraite, dans les conditions bien sûr acceptables, pourquoi aujourd'hui le gouvernement ne met pas tout le monde à la retraite? Je l'ai dit, il y a un problème de moyens, nous ne pouvons pas nous le cacher, mais aussi de ne pas mettre tout le monde aujourd'hui à la retraite, parce que c'est des ressources humaines qui vont encadrer les jeunes qui vont venir pour la relève. Donc ça, c'est important. Et aujourd'hui, on parle même des gens qui ont des numéros matricules, des gens qui ne sont pas payés. Encore une fois, c'est parce que nous ne maîtrisons pas encore, malheureusement, les choses. Quelqu'un a dit, ceux qui touchent, ils ne travaillent pas. Ceux qui travaillent, ils ne touchent pas. C'est ça ce qu'il faut clarifier. On parle même des gens qui ont été nommés en 2010, ainsi de suite. Vous savez même qu'il y a des arrêtés d'admission sous statut qui ont été frappés de nullité par le gouvernement, par son excellence, monsieur le Premier ministre. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Si on dit aujourd'hui mécaniser tous ceux qui n'ont pas de numéro matriqué, ben, nous risquons de mécaniser même ceux qui n'ont pas de poste. Moi, j'ai déjà vu des gens qui me disent, j'ai un numéro matriculé, mais je n'ai pas de travail. Mais comment vous avez eu un numéro matriculé sans avoir le travail? On commence d'abord par identifier le poste vacant avant de nommer, et c'est en nommant qu'on donne le numéro matriculé. Mais c'est comme si dans notre administration, il y a eu un moment où on a nommé des gens, on a admis des gens sous statut, alors qu'il n'y a pas de poste vacant. Ça, c'est ce qui a tué notre administration. Et ce qui se fait maintenant, effectivement, c'est une voie vers la correction, l'amélioration de cette situation. Et tout ce que nous pouvons demander, c'est tout simplement le soutien. Alors, notre ami Félicien, si je ne me trompe pas, il a dit, est-ce que la caisse de la retraite, la caisse nationale de sécurité sociale, va fonctionner au modèle de l'INSS? L'avantage que nous avons, d'abord, il faut savoir que l'INSS, c'est pour les privés. Hein. Mais maintenant, nous voulons avoir une caisse pour le service public, pour l'administration publique. L'avantage que nous avons est que, effectivement, nous allons partir de ce qui, des faiblesses, entre guillemets, de ce qui se passe au niveau de l'INSS. Je ne dis pas que l'INSS ne fonctionne pas, mais on vient de dire qu'il peut y avoir des failles. Mm-hmm. Nous qui venons maintenant, nous allons améliorer. L'objectif est que cette caisse permette de prendre en charge les agents pendant la retraite de manière plus ou moins acceptable. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez qu'en Afrique du Sud, tous les aéroports, ou en tout cas une bonne partie des aéroports de la République sud-africaine, sont propriétés de la caisse de retraite? Nous voulons une caisse qui est de moyens. Lorsque nous avons près d'un million, plus d'un million d'agents et fonctionnaires de l'État, et que les gens cotisent, parce qu'entre-temps, le gouvernement se battra pour améliorer les conditions, on aura une bonne masse. Mais attention, pour gérer cet argent, il faut une bonne administration. Voilà pourquoi il ne faut pas attendre. Vous voyez, la réforme, c'est un tout. Et donc, il est difficile de dire que nous allons isoler une partie. Nous risquons aujourd'hui, d'ailleurs, ça m'étonne que les gens ne me posent pas de questions là-dessus, pour la garantie de la gestion de l'argent qui va être généré par ces cotisations.
Et peut-être que le groupe.
Nous avons besoin d'une administration efficace. Et nous finirons par, nous allons recruter les gens qui vont travailler
la gestion
de cette caisse. Mais nous allons les recruter comment? Sur base de concours, avec un contrat de performance, d'ailleurs j'ai oublié de le dire. Les gens qui quittent les NAC, qui rentrent dans l'administration, ils y vont sur base d'un contrat de performance. Et tous les 3 mois, tous les 6 mois, nous allons suivre ce qu'ils font dans l'administration.
Mais alors, quand vous parlez des contrats de performance, on sait qu'aujourd'hui, les énarques sont formés, en fait, la formation est axée sur une formation basique, mais entre-temps, sur le plan standard, universel, il faut une formation continue. Est-ce que vous y avez pensé?
Merci beaucoup. D'ailleurs, je pouvais en parler lorsque la question de recyclage a été posée. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'ENA, et je voudrais y aller calmement pour que tout le monde me comprenne, les gens ont tendance de croire que c'est une école qui va former les jeunes contre les vieux. J'insiste là-dessus. Cette école va former les jeunes pour les vieux, pour venir épauler les vieux, pour venir relever les vieux. Mais attention, nous n'oublions pas les vieux eux-mêmes, les aînés, je préfère utiliser le terme aînés. Pour cela, qu'à l'ENA, il y a deux types de formations. Il y a cette formation basique et il y a la formation continue. On peut dire oui au début parce que c'est seulement deux ans. Apparemment, on a plus favorisé la formation basique. Mais non, maintenant, nous allons aussi mettre un accent sur la formation continue, le recyclage. Et déjà là, nous sommes en train de préparer la formation des chefs de division et des chefs du bureau. Quel que soit leur âge, ils doivent être formés. Parce qu'ils pourront aussi participer à des concours. Il y a deux semaines, il y a des directeurs, il y a des aînés, pour ne pas parler des vieux, qui ont participé à ces concours. Lorsque quelqu'un il est dans l'administration et il y a un poste qui s'ouvre dans un service de l'administration et il trouve que c'est plus juste. Il dit, je voudrais quitter mon service pour aller, par exemple, au service des finances, au service des budgets, au service de santé ou n'importe quel autre service. Et il y a un concours, il a le droit d'y aller. Mais les matières de concours, ce sont des matières liées à l'expérience, bien sûr, mais à toutes ces formations basiques et formations continues. Donc, nous voulons que les aînés, comme les jeunes, aient la même chance lorsqu'il s'agit de concours. Vous savez que pour le concours qui a eu lieu il y a deux semaines, même les aînés ont concouru. Ah oui,
ah, bon?
Ah oui, oui, parce qu'il s'agissait des nouvelles directions. Il ne s'agissait pas de dire parce que vous
êtes c'est, pas, c'est pas paradoxal parce qu'ils ont déjà reçu une formation suffisante et avec promesse ferme de trouver directement de l'emploi.
Trouver directement de l'emploi, mais pas pour ces directions. Pour ces directions, il faut concourir et on a voulu donner la même chance à tout le monde, y compris ceux qui sont déjà dans l'administration. Et vous savez que même côté des ENA qui se demandaient, mais pourquoi nous allons encore faire le concours? Non, tout le monde doit être soumis au concours quand il s'agit.
Voilà, nous allons prendre le dernier, la dernière série de auditeurs. Confiance Benoît et Maître Sonville, vous gardez la ligne. On va vous accorder la parole juste après les flashs d'information. Il est temps de rappeler que nous sommes en train de débattre sur le concours qui a été organisé il y a deux semaines à travers le pays pour recruter des cadres de nouveaux standards de l'administration publique. Et beaucoup ont concouru. Quelle est l'étape suivante? 081 890 7315 pour votre intervention. Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Confiance, vous êtes à Kinshasa, Benoît Abeni, Maître Sonville Lumbashi. Confiance, bonjour.
Bonjour Mbote Djambo, à tous les Okapi, c'est la radio de la paix, à Monsieur le ministre.
Vous avez la parole, quel est votre avis, Confiance?
En fait, j'ai commencé d'abord pour être fier. Je suis souvent fier de tous ces ministres qui ont la notion de redevabilité. Ceux qui comprennent que là où ils le sont pour le peuple. Donc, ils doivent à tout moment lui rendre compte en tant que souverain primaire. Parce que les décisions qui sont prises d'abord pour nous et non pour eux. Je vais commencer par la dernière partie de l'intervention du ministre. C'est parmi les choses que j'ai toujours demandé dans plusieurs de nos émissions, c'est de se poser la question de savoir pourquoi a-t-on une administration non efficace ou bien moins bonne. Hein, il y a toujours, j'ai toujours suggéré même lors de nomination des ministres, qu'on exige aussi un contrat de performance, pouvant toujours être suivi d'une analyse, une évaluation de performance. Et qu'il y a, c'est pas, je me demande si le ministre aussi a un planning dans ce sens-là, parce que la radio Capi, c'est un couteau à double tranchant, nous allons lui poser les mêmes questions dans une année. Ce qu'il a dit, ce qu'il a planifié, et si en faisant une évaluation, et si les objectifs ont été atteints. Ma question est de savoir aujourd'hui, de la même manière qu'on est rigoureux pour un bon recrutement, est-ce que dans la politique de recrutement, il y a aussi cette exigence de bien vouloir négocier les salaires de ceux qu'ils ont recrutés? Engagé, c'est bon. Et la façon dont on traite ceux qui ont été engagés, ceux qui ont déjà fait 30 ans, ceux qui doivent être retraités, c'est aussi une question qui devrait se poser. On peut bien engager, mais la suite, c'est comment? Est-ce que nous ne risquons pas de nous reposer la même question? Pourquoi nous avons une administration moins efficace pour qu'on dépense encore de l'argent à former les gens, à récupérer, ainsi de suite? Voilà ma façon de voir les choses et j'aurais vraiment souhaité que le ministre nous le dise aussi, si le contrat de performance qu'ils exigent aux gens, si ils ont été exigés.
Le ministre accepte même la exigence. Merci beaucoup, confiance. Le ministre n'a que 2 mois et demi, si mes calculs sont bons. Hein. Je crois qu'il aura, il aura à nous répondre à cette question. Mais et là, votre souci, c'est que vous revenez sur ce que vous avez toujours évoqué lors de vos émissions, les contrats des performances. Engagé, c'est bon, mais la suite, c'est comment? Est-ce qu'on ne risquera pas une année après de revenir sur les mêmes histoires? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On va encore sortir de l'argent. Telle réforme n'a pas marché, tel point. Pourquoi? Pour, bon, en fait, vous saluez le courage du ministre et comme tant d'autres qui acceptent de passer pour devoir des redevabilités, de pouvoir rendre compte à la population. Merci beaucoup. Benoît, vous êtes à Béni. Bonjour, Benoît.
Bonjour.
Quel est votre avis, Benoît?
Je remercie la disponibilité de son Excellence, Monsieur le ministre de la Fonction publique. Mais je tiens à lui dire que recruter, faire les concours, c'est bon. Mais est-ce que vraiment, il faut l'évaluation des agents de l'État? Puis je pose cette question, c'est parce que, qu'est-ce que nous, on observe? On observe un pléthore avant les recrutements, avant les concours. Il fallait mettre fin à ce pléthore. Je vois, par exemple, un ministère comme le service de l'environnement. Dans un territoire comme Béni, ça va être plus de 600 agences. Irou, c'est la même chose. Donc, tous les services, c'est pareil. Et il y a environnement, il y a transport et communication, il y a énergie, il y a culture et art. Mais que font tous ces gens-là, hein? À part ça, vous constatez que il faut, c'est la baisse de l'État qu'on constate. Parce que chacun, il va, il cherche son argent au lieu de chercher l'argent de l'État. Nous, on assiste à des tracasseries, extorsion impossible à cause de ces pléthores-là. Je vais vous terminer par un exemple. Traversez seulement la douane congolaise. Nous, par exemple, nous sommes plus près de la douane de Katins. Vous trouvez du côté congolais plus de 100 personnes, du côté ougandais 3 personnes qui font un travail impeccable. Monsieur le ministre, essayez vraiment de me donner quelques explications sur les pléthores. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Benoît. Vous évoquez la question relative à l'évaluation des agents. Et là, vous avez soulevé aussi la notion, le nombre pléthorique que nous obtenons dans nos postes frontaliers et surtout les postes douaniers. Ça relance également la question des débats sur la décentralisation de l'administration. Le problème de la décentralisation de l'administration et surtout dans cette nouvelle configuration des 26 provinces. Maître Sonville, on va terminer avec vous. Maître Sonville, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, monsieur Général.
Vous avez la parole, Maître Sonville.
Oui, bon, cette réforme de l'administration, M. J.R., c'est génial, à partir même de la maîtrise des effectifs. Mais la question que je me pose, combien de gens sont obligés dans la retraite? Et ceux-là qui sont déjà à la retraite, jusque-là, ils ne sont pas encore indemnisés. Nous avons assisté à une retraite sélective. Lorsqu'on a au moins 65 ans, on doit aller en retraite pour ce qui concerne la fonction publique. Mais nous voyons encore d'autres personnes qui ont même dépassé 65 ans, en train de travailler ici à la Lubumbashi. Alors, est-ce que nous n'allons pas assister à ce même système de sélection? Ça, c'est la question. Par rapport aux moyens pour amener à la retraite, j'estime que Monsieur le ministre a parlé de cette histoire de moyens. Mais où va l'appui des partenaires traditionnels? Parce que nous voyons à tout moment, il y a un peu de ressources de certaines, de la fonction publique, différents partenaires traditionnels. Où va cet appui? C'est-à-dire que, par rapport aussi au système d'octroi, moi je trouve que ce système d'octroi n'a même jamais existé. Parce que ça fait maintenant des gens, des fonctionnaires qui sont à la retraite, il y a de cela 5 ans, 10 ans, qui ne sont pas, qui n'ont pas encore reçu leur indemnité. Alors, par où est passé ce système de poids? Maintenant, on veut parler du système contributif. Oui, c'est bien, mais il faut savoir améliorer les conditions de vie des fonctionnaires qui seront recrutés et leur prise en charge. Par rapport à l'ENA, M. Giné, moi je trouve que c'est une innovation, certes, mais est-ce que cette école est implantée dans toutes les provinces ou il sera question que les habitants de l'intérieur puissent encore se payer les biens eux-mêmes et aller dans la Kinshasa? Est-ce que si cela n'est pas le cas, est-ce que le ministre de fonction publique a songé au moins à implanter les différents centres au niveau des provinces?
Alors, je ne sais pas, mettez à son ville, là où vous êtes, par exemple, à Lubumbashi, est-ce que vous avez remarqué, est-ce que le centre de formation, je sais pas, extension, appelons ça ainsi, de l'ENA, est visible, est opérationnel?
Non, il n'y a aucun centre de l'ENA qui est visible ni opérationnel. C'est pourquoi je pose cette question. Mm-hmm. Par rapport maintenant aux critères d'habilité des correcteurs, est-ce que ces correcteurs sont-ils bien motivés? pour être pour qu'ils soient épargnés de la corruption, comme les autres l'ont dit.
Voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup.
Si,
voilà, on a pris assez de temps.
Pour donner. Les sanctions qui sont produites, pour les trouver, la main dans le sac.
Merci beaucoup, M. Sauville. Sont des dieux, vous n'avez qu'une minute pour votre préoccupation. Et puis, bon, on va conclure avec notre invité. Jean Dédieu, bonjour.
Bonjour, M. Bureau. Bonjour à notre cher invité, à tous ceux qui sont présentement sur la radio Fatih.
Vous avez la parole, Jean Dédieu.
Merci beaucoup. Le sujet vraiment est trop professionnel. Je crois que les autres ont déjà dit, ils ont donné leur point de vue qui est vraiment essentiel, où notre gouvernement doit prendre cela en considération. Moi, je vais dire ceci. Voyez, quand ils parlent de la réforme, ils ont fait des concours et c'est ça. Je crois qu'il a répondu aux questions de notre l'auditeur qui a demandé est-ce que le concours doit s'étendre partout dans d'autres provinces. Oui, c'est ça. Si que cela vous a aussi donné ici, il va vous tenir compte.
Voilà. Merci beaucoup, Jean de Dieu. La question a été déjà posée bien avant. Notre invité pourrait répondre là-dessus. Voilà, monsieur le ministre, on va conclure avec vous. Les concours ont été organisés. Il y a certains citoyens qui réclament le concours aussi dans d'autres parties du pays. Ils n'ont pas vu être organisés ces concours chez eux. Alors, que répondez-vous aux uns aux autres?
Ben, je pense que nous devons prendre des bonnes notes des réclamations ou des demandes des uns et des autres. Et pour le prochain concours, nous allons approcher davantage les entités en tenant compte des 26 provinces, bien entendu. Pour revenir un tout petit peu aux préoccupations, notre ami Confiance a parlé du contrat de performance et il a raison. C'est vrai que cela devrait se faire à tous les niveaux et le gouvernement travaille dans ce sens-là. Déjà, moi, vous venez de dire, j'ai 2 mois et demi, ce n'est même pas encore 2 mois et demi en fait, mais j'ai trouvé une lettre d'émission du gouvernement, son excellence, monsieur le Premier ministre, qui présente clairement les résultats que je dois attendre à la fin de l'année. Et donc, je veux être évalué sur base du contenu de cette lettre d'émission. Et chaque ministre a une lettre d'émission. C'est déjà ça, le contrat de performance, quitte à l'améliorer, bien sûr, mais en tout cas, ça s'est fait même à notre niveau. Et nous pensons que petit à petit, ça va aller très loin dans notre administration. Oui, le problème de pléthore, c'est ce que nous disons. Nous voulons d'abord savoir qui est réellement agent, qui doit aller à la retraite, et c'est pour cela que même le Premier ministre a pris la décision de geler le mouvement du personnel. Les gens veulent aujourd'hui qu'ils soient recrutés. Mais nous disons non, attendez, nous voulons d'abord maîtriser les effectifs et donc le problème de pléthore avant de penser au recrutement en fonction des besoins, en fonction des postes vacants. Combien d'éligibles à la retraite? En tout cas, d'ici là, la réponse va être donnée de manière claire. Si aujourd'hui j'en parle, ça sera des estimations. Nous sommes en train de finaliser le travail et on le saura même avec un plan de mise à la retraite. Cela est attendu aussi de nous. Bon, je suis tout à fait d'accord. Ça serait l'idéal d'avoir l'ENA dans toutes les provinces, mais avec les moyens. Mais attention, ceux qui sont à l'ENA aujourd'hui, on paye leurs billets et ils reçoivent une petite bourse pour leur permettre de survivre. Donc, ce n'est pas quand même honnête de dire qu'ils payent leurs billets eux-mêmes. Non. En tout cas, le gouvernement prend en charge leur présence au niveau de l'ENA. Si vous permettez, ce que je voulais dire,
allez-y.
Le président de la République veut que la RDC soit émergente. Le Premier ministre nous met sur cette lancée-là pour atteindre cet objectif. Eh bien, nous voulons que chacun là où il essaie de travailler dans cette optique-là.
Pascal Issoubichaud, ministre de la fonction publique, merci d'avoir été de l'autre.
Merci, hier.
Voilà, mesdames et messieurs, nous vous disons merci. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à Eric Tessidiakala qui a assuré sa mise en onde. Julie Fézabonde a été au standard. Pierre Lamégi a réalisé ce programme qui vous a été coordonné, présenté par J.R. Lungebo sous la supervision éditoriale de Martin Sebou-Janglais. On se retrouve demain dans un autre numéro.